Région Grand Est.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice,
c'est l'as. C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Vous écoutez Radio Grand Air, merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine cinéma en pays foyen, 70e édition déjà, et avec bien sûr notre serviteur de la radio, notre passionné de cinéma, et bien c'est Pascal qui nous rejoint comme d'habitude, comme chaque semaine sur la radio. Bonjour Pascal.
Bonjour Christophe. Et oui, le numéro 70.
Déjà, ouais.
Déjà,
ouais.
Ça commence à faire, hein. Et puis comme on disait tout à l'heure hors antenne, ben apparemment vous êtes de plus en plus à nous suivre.
Oui, ça fait plaisir.
Merci. Merci à tous et à toutes, du fond du cœur, de porter un petit peu d'attention à l'actualité cinématographique en pays foyen.
Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages de temps en temps sur notre page Facebook de la radio, si vous avez apprécié, si vous avez envie de connaître, avoir quelques informations sur des films qui sont diffusés aussi à la brèche. Pascal, je pense, répondra à vos questions. Sans souci.
Bien sûr. Donc bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 70 d'Entracte.
Voilà, on n'est pas Festival de Cannes, on est
non,
bien à la brèche
ici,
cette
c'est
semaine.
C'est carrément mieux que le Festival de Cannes ici, ouais, c'est tranquille et tout, il n'y a pas de foufrou, pas de chichi.
Ouais, on va monter les marches.
Ça, voilà, on reste simple.
Voilà, je te passe le générique du Festival
super,
de Cannes.
Oui, voilà. C'est Cannes à cette fois, les amis. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, dans tous les cas, on suit quand même l'actualité du plus ou moins du Festival de Cannes. À mesure où on a quand même passé des films qui sont encore en compétition, j'imagine. Voilà. On a un gros carton là de Jeanne Dubarry. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de.
Ah oui, c'est vrai. On en avait parlé la semaine dernière. On savait pas trop comment ça allait évoluer ce film.
Oui. Moi, j'avais vraiment tablé sur Fast and Furious, là, le 10e opus, mais on a quand même une très bonne fréquentation sur le film de Mai Wen et de Johnny Depp, donc Jeanne Dubarry, hein, qui fonctionne très très bien.
Avec un Pierre Richard qui se trouve aussi
Pierre Richard,
dans ce film étonnant.
Ouais, mais
étonnant.
Ça, je trouve ça vachement sympa de ne pas l'oublier.
Ouais.
Parce que mine de rien, il a été mis au placard. Il y a certains acteurs, tu vois, des années 80 ont carrément été mis au placard et ils n'ont pas forcément apprécié, c'est vrai. Et je pense à une en particulier, c'est Annie Girardot.
Ah oui, exact. Ouais. Elle avait même pleuré.
Bien sûr,
une récompense.
Ouais. Annie Girardot, qui est une très bonne actrice. Bah, je ne sais pas si vous savez. Alors, évidemment, nous, on est des vieux, donc on en a vu pas mal, des films des années 60, 70, 80. Ouais. Mais c'est une super actrice, Annie Girardot, quand même.
Ouais.
Quand même.
Ouais.
Je sais pas, moi je la vois jouer avec de Funès, je la vois jouer avec plein de d'acteurs de cette époque-là. Et mais moi aussi j'étais triste pour elle, oui. Parce que c'est comment peut-on mettre comme ça au rencard une si grande actrice et une passionnée en plus de son métier, quoi. Je trouvais ça un peu rude, quoi. Donc voilà, une grosse pensée pour elle.
Ouais, merci pour ce petit clin d'œil. Et puis on reviendra donc à Pierre Richard, qui étonnamment se retrouve dans ce film. On n'a pas forcément eu le choix qui a été décidé par Mai Wen, qui est à l'origine de ce film. Pourquoi Pierre Richard, justement? Telle est la question, parce qu'on l'a toujours mis dans des tiroirs un petit peu.
On le voyait plus dans des comédies, des choses comme ça. Bon, maintenant, pourquoi pas? C'est l'occasion aussi, quand on fait un film comme ça d'époque, de faire entrer des acteurs qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Alors, Pierre Richard, non, il a quand même tourné dans plusieurs films là, dernièrement. Hein, mais non, moi, je trouve ça chouette de ne pas les oublier. Je trouve ça important parce qu'ils font partie quand même de l'histoire du cinéma. Enfin, je sais pas, Pierre Richard, je pense au Jouet, à La Chèvre, à tous ces films-là. et on a tous bien ri quand même devant l'écran. C'était quand même un grand acteur. Hein.
Ouais. Oui, c'est vrai. Et puis, comme quoi, hein, dans le cinéma, il n'y a pas de limite d'âge.
Non, heureusement. Heureusement, parce qu'on s'ennuierait énormément. Si avec des jeunes ou des vieux. Non, c'est ça la richesse du cinéma. C'est justement, on croise un petit peu les générations et je trouve ça vraiment, vraiment très très bien. Quoi.
Alors au sommet de cette nouvelle semaine, Pascal, 5 sélections à la brèche.
J'ai fait 5 sélections cette semaine. On va parler du dernier film de Rob Marshall. Alors celui-là, je pense sans problème que ça sera le film de la semaine.
Ouais.
Et qui rime avec La Petite Sirène.
Très bien.
Alors c'est le dernier Walt Disney évidemment. Là, un peu spécifique celui-ci. Walt Disney vraiment a voulu un petit peu se renouveler. Hein. Donc c'est un film qui aura une partie en film d'animation et l'autre partie en image réelle. C'est ça La Petite Sirène. Hein. Donc c'est une petite innovation de ce côté-là. Mais c'est bien parce que c'est ça aussi le cinéma, c'est tester des choses, inventer, se réinventer. Ouais. Parce que évidemment, l'erreur, c'est recommencer avec les mêmes idées, les mêmes décors. Mais parfois, ça peut lasser les gens. Donc là, bon, ils se réinventent, ils ont des idées, c'est très bien. On va partir en Iran.
Ah oui, tiens.
On va partir en Iran.
Alors là, c'est intéressant.
Pour un film d'animation. Oui. On va parler de portraits de famille. On va parler également du dernier film de Mélissa Drijard, Hawaï. Également, on va parler aussi du dernier film français de Tchad Chenouga, le principal. On va parler du milieu scolaire. Et on va parler aussi du dernier film de Valérie Donzelli, L'amour et les forêts. Je crois qu'il est projeté à Cannes, me semble-t-il. Moi, j'ai pas trop suivi tout le programme de Cannes. Je suis très mauvais là-dessus.
Moi non plus.
Je suis pas très événementiel. Et vraiment, je suis vraiment désolé de ne pas vous faire de papier là-dessus. Parce que je suis. Ben voilà, je vais tourner avec vous, hein. C'est pas quelque chose qui me branche des masses.
De toute façon, vous regardez la télé, on fait un petit peu le point tous les jours, hein, sur...
Oui, en plus, oui, la presse, elle s'en sort vachement bien que moi. Et dans le cadre donc, de la sortie L'amour et les forêts, j'ai choisi comme personnage une personne qu'on croise pas souvent. On va parler de Romane Bourringer. On l'a eu croisée.
Oui.
On la croise un peu moins.
C'est vrai, elle revient donc.
Ouais, c'est très bien parce que c'est une bonne actrice quand même, Romane Bourringer.
Eh bien, on commence par la première sélection de la semaine. Tu le disais, c'est Walt Disney qui signe ce rendez-vous d'animation, mais un petit peu particulier, La Petite Sirène.
Alors, La Petite Sirène, évidemment, oui, ça va être le gros film, un film américain, évidemment, de 2h15. Là, ils sont les forts, les gars.
2h15,
oui, il va falloir
accrocher vous là.
Patient, ouais, voilà, de Rob Marshall. Hein. Alors, c'est l'histoire d'Ariel, évidemment, la petite sirène, la célèbre petite sirène, qui est la benjamine des filles du roi Triton, et qui est une jeune sirène belle et fougueuse, dotée d'un tempérament d'aventurière. Donc, rebelle dans l'âme, elle n'a de cesse d'être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric. Alors qu'il est interdit aux sirènes d'interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu'elle doit suivre son cœur. Elle conclut alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie et la couronne de son père en danger. Alors ils reprennent évidemment un petit peu le même scénario que le premier opus de la Petite Sirène, hein, qui était là en film d'animation. Donc La Petite Sirène réinvente en prise de vue réelle, hein, le classique de l'animation Disney, sorti en France en 90. C'est pas hier quand même. Hein.
Ouais, d'accord.
Le scénario de David McGee s'appuie aussi bien sur le dessin animé que le conte original de Hans Christian Andersen. Le réalisateur Rob Marshall souligne « Même s'il s'agit d'un monde magique que nous avons créé de toutes pièces, notre objectif était de faire en sorte que La Petite Sirène n'ait en aucun cas l'air d'un film d'animation. Nous voulions réimaginer notre espace sous-marin dans un style photoréaliste afin qu'il prenne vie comme dans un film en prise de vue réelle. C'était capital pour nous. » Voilà, mais je trouve que c'est quand même une bonne idée. Donc ce film a été le plus difficile de ma carrière, relève Bob Marshall. En fait, comme il nous dit, je n'aurais pas pu y arriver sans l'expérience que j'ai acquise à ce jour. Personne n'avait encore fait de comédie musicale sous-marine. Le réalisateur tenait à ce que les scènes sur Terre aient l'air particulièrement réalistes et celles sous l'eau fantasmagoriques. Et comme il nous dit, le monde sous-marin est entièrement numérique, tandis qu'à la surface, tout est réel et construit à la manière d'un film d'époque classique. Et comme il s'agit également d'une comédie musicale, nous avions l'impression de bien, à bien des égards, de préparer trois films différents en même temps. Donc la pré-production du film a débuté à Los Angeles, donc en 2019. Hein. Et pendant cette période, les artistes, donc Storyboard, ont travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur, le producteur John DeLuca et le chef décorateur John Meir sur les visuels des personnages animés en images de synthèse et sur l'esthétique des décors. Étant donné qu'une grande partie du film, en particulier tout ce qui se passe sous l'eau, était numériquement créé par le superviseur des effets visuels, donc Tim Burke, en post-production, il était crucial que ces plans soient élaborés à l'avance. Et il y a toute une préparation derrière, hein. C'est une grosse, grosse préparation technique.
J'imagine,
hein,
ouais.
Donc le choix qui a suscité la polémique...
Une polémique.
Évidemment, oui, tu penses bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la publicité du film aussi, faut pas oublier. La polémique, c'est bon pour les entrées en général.
D'accord.
Donc le choix d'une jeune femme de couleur pour interpréter le rôle d'Ariel n'a posé aucun problème à Rob Marshall. Et comme il nous dit, lorsque j'ai vu Allée pour la première fois, donc il est le nom de la jeune fille, elle était très jeune, presque éthérée, avec une voix tout simplement angélique. De plus, elle avait une connexion émotionnelle profonde avec ce qu'elle chantait. Nous n'avions qu'un seul but, chercher la meilleure actrice pour le rôle. Nous avons vu plein de candidates issues d'ethnies différentes. Il n'y avait pas vraiment d'ordre du jour. Certaines voix se sont élevées contre la voix d'Olly Bailey, criant la trahison du comte danois d'Andersen, quand d'autres y ont vu l'illustration d'un complot de lobbyistes adeptes du blackwashing. Moi je dis, vous réfléchissez un peu trop quand même. Malgré le mauvais buzz, les studios Disney ont décidé de rester sur leur position, publiant une lettre ouverte via leur chaîne Freeform, dont voici un extrait. Oui, l'auteur original de La Petite Sirène était danois. Ariel est une sirène. Elle vit dans un royaume sous-marin dans des eaux internationales et peut légitimer nager où elle veut, même si cela inquiète le roi Triton. Mais pour le bien du débat, disons qu'Ariel est également danoise. Les sirènes danoises peuvent être noires car les Danois peuvent être noirs. Et voilà la réponse. Et
effectivement.
Du berger à la bergère, comme on dit. Donc les scènes sous-marines n'ont pas été tournées dans l'eau, mais sur fond bleu, selon une technique cinématographique appelée « dry for wet », c'est-à-dire « sec pour mouiller ». Le chef décorateur, donc John Meir, détaille le dispositif et il nous dit « la plupart du temps, les acteurs se tenaient sur des diapasons de grands disques circulaires tournant autour d'eux. Donc ils étaient harnachés, pouvaient tourner et se déplacer de haut en bas. Mais cela a nécessité une chorégraphie très précise et une grosse équipe de cascadeurs et de cascadeuses qui nous a aidés à manœuvrer nos personnages. » Je te laisse imaginer hein, les gens attachés à des petits filins comme des marionnettes.
Hein. Ah oui, il ne faut pas que ça casse.
C'est le truc. Ouais. Ah oui. Le directeur de la photographie, donc Dion Beebe, a quant à lui créé des effets d'éclairage complexes pour simuler l'impression d'être sous la mer. Et comme il nous dit, mon chef électricien et moi-même avons créé des bacs à eau que nous suspendions au-dessus des décors et à travers lesquels la lumière pouvait être projetée. Nous avons ensuite demandé à notre équipe effets spéciaux de construire un appareil destiné à brasser l'eau afin de créer l'effet d'éclairage que nous souhaitions pour les séquences sous-marines. Et oui, la lumière dans l'eau ne se comporte pas pareil que dans l'air.
Ah oui, c'est vrai.
Il leur fallait vraiment des bacs à eau, de la lumière qui passe à travers. Et voilà un petit peu pour vous donner une idée de la complexité du tournage de ce film-là. Hein. Donc la petite sirène, oui, de retour. Oui, elle sera bronzée, oui. Mais on s'en fout.
Oui, il y aura des effets aussi.
Le truc, c'est quand même une comédie musicale. Vous êtes là quand même pour écouter des jolis chants.
Absolument.
Voir des jolis décors.
Avec une belle musique que nous écoutons en fond, cher Pascal, puisque j'ai retrouvé l'extrait de la bande originale de La Petite Sirène, qu'on diffuse bien sûr avant diffusion sur La Brèche. C'est Alan Menken qui signe donc la BO de cette petite sirène.
Voilà, et eh ben super ça.
C'est symphonique, hein.
Et, mais en général, mais c'est très travaillé. Walt Disney, ça rigole pas.
Ah oui, oui.
Quand c'est comédie musicale,
faut pas se rater.
Ouais, ouais. Non, mais je pense qu'il se rateront pas parce que ça marche toujours bien. Et puis c'est chouette les comédies musicales. Il y en a qui adorent, surtout les enfants en plus. Mm-hmm. Et puis le conte est d'enfer.
Oui, aussi. Et puis c'est un esprit sain, on va dire. Hein, c'est
absolument.
C'est
oui,
positif.
Oui, voilà, c'est dénué de politique, c'est dénué de tout ceci. Quoi. C'est quand même.
Et puis ça c'est pas violent. C'est
pas violent. Et puis ça colle aussi au conte, au conte danois.
Absolument, ouais. Donc à voir cette semaine, on pourra le voir en 3D, je crois.
Exactement, on le voit en 2D et en 3D.
Avec les lunettes.
Avec les lunettes.
Voilà. Et pouvoir voyager sous l'eau.
Ouais, ouais, moi je ferai les essais bientôt. Là, je vais voir ce que ça donne en 3D. Quoi. On va voir un petit peu le travail des techniciens hein, qui apparemment est énorme.
Voilà, on écoute à nouveau un extrait de La Petite Sirène. Le prochain rendez-vous avec Portrait de famille, à voir cette semaine à La Brèche, Pascal. Alors c'est un rendez-vous, une comédie que nous allons pouvoir découvrir à La Brèche.
C'est un film d'animation.
D'accord.
De 42 minutes, qui nous vient d'Iran.
Ah oui.
Oui, les déclarations iraniennes arrivent à passer les frontières, ouais. Et nous en sommes très heureux parce que l'Iran, ouais, est un pays où on fait du cinéma. On en a parlé maintes fois.
C'est vrai.
Évidemment, les cinéastes se font parfois enjoler, encager, embastiller.
Je pense qu'il y a eu un petit papier au Festival de Cannes sur Portrait de famille, justement.
C'est vrai ? Mais tant mieux, parce qu'il faut quand même faire la lumière là-dessus, parce que tu sais, souvent, pour les gens qui regardent beaucoup la télé, hein, c'est pour ça que je dis souvent, regardez-moi la télé. Quand on te dit l'Iran, oui, tu dis ça y est, c'est la République islamique, c'est une bande de sauvages. Voilà, ce sont des gens, non, l'Iran, c'est pas que ça. Alors évidemment, oui, on a eu l'histoire de ces personnes-là qui ont été emprisonnées, des Français, en Iran. Hein. Ils ont été accusés, ouais, d'espionnage et tout, apparemment à tort. Hein.
Ouais.
Oui, c'est sévère. Mais derrière les frontières, derrière le rideau, on va dire, politique, il y a des gens. Il y a des créateurs, il y a des gens qui aiment le ciné. Je pense à Jafar Panahi, je pense à son fils, je pense à tout un tas de cinéastes aussi iraniens. Et là, ils font du film d'animation. Eh bien, ils sont les bienvenus.
Ouais.
On leur ouvre les portes, parce que c'est chouette d'aller voir un petit peu comment fonctionnent les autres. Et c'est ça la richesse du cinéma aussi, c'est de drainer un petit peu tous ces savoir-faire qui arrivent de tous les pays du monde. Il n'y a pas de censure, tout le monde est le bienvenu dans le monde de la création. Oh, alors, donc c'est un film, alors, là, évidemment ils sont plusieurs, donc c'est à partir de 3 ans, hein, donc ça dure 42 minutes. On va retrouver Morteza Ahadi, Sarkani, Mohamed Ali, Souleymanzadeh, Mahin Javaerian.
Bravo.
J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Oui, j'en suis vraiment désolé, très chers amis. Donc, on part au pays, le pays des contes et des mille et une nuits, donc qui est en ébullition. Et la fête bat son plein chez les papillons. Maman Corbeau met au point une stratégie pour se débarrasser d'un renard affamé. Maître Corbeau va se marier sous les yeux d'un chat ébahi. Une grand-mère qui n'a pas froid aux yeux prend la route pour rendre visite à son petit-fils qui vient de naître. Un village prépare avec enthousiasme le mariage de la belle Ajar. Alors, Portrait de famille se compose de 5 contes réalisés par Morteza Ahadi Sarkani et Mohamed Ali Souleymanzadeh, qui ont déjà collaboré ensemble en 2006 sur Le Corbeau et un drôle de moineau. À ce duo s'ajoute Mahin Javaerian, à qui l'on doit un autre court-métrage d'animation, Le rêve et autres courts, datant de 2008. Donc l'Iran propose de nombreux films d'animation, parmi lesquels Le Petit Monde de Brador en 2006, La Montagne aux Bijoux en 2005, où l'on retrouve Mohamed Reza Abedi aux côtés d'Abdollah Ali Morad à la réalisation, et bien sûr Persepolis, oui, en 2007, Persepolis, qui est rentré dans le programme de collège au cinéma. Hein. Toutefois, même si la réalisatrice, donc Marjane Satrapi, est iranienne, son long métrage est classé comme étant de nationalité américaine et française. Oui, Marjane Satrapi a secoué un peu le joug. Je pense qu'elle s'est un peu expatriée.
Ouais.
Voilà pour vous donner un petit éclairage sur cette création iranienne. Donc, nous passerons à La Brèche cette semaine pour les tout petits. Donc, à partir de 3 ans, c'est un programme, donc je le répète, hein, qui fait 42 minutes.
Voilà, accessible pour tout le monde. Eh bien, on va revenir sur un autre rendez-vous cette semaine. Nous avons l'affiche sous les yeux, quasiment. Voilà, on est sur la plage, hein. On est peut-être à Hawaï.
Absolument.
C'est le nom de,
oui,
ce prochain film.
Un film français d'1h44, c'est une comédie, hein, de Mélissa Drijard. Alors, en 2019, elle a réalisé « Tout nous sourit » avec, ouais, Elsa Zilberstein et Stéphane De Groot. Alors, on est des acteurs, il y a une sacrée distribution. Hein. On va retrouver même des revenants, hein, je dirais même. Bon, Bérénice Bejo, que tout le monde connaît. Élodie Bouchèze, qui revient.
Oui.
Émilie Kahn. Aïe Aïdara. Pierre de la Donchamp. Nicolas Duvauchel. William Legbill. Et Manu Payet. Donc, nous sommes le 13 janvier 2018. Il est 8h07. Et une alerte aux missiles balistiques sème la panique sur l'île de Hawaï. Persuadés qu'ils vont mourir, des amis venus passer leurs vacances en borde se disent ce qu'ils n'ont jamais osé avouer. Quand ils réalisent qu'il s'agit d'une fausse alerte, il est trop tard pour revenir en arrière.
J'imagine.
Et oui, quand t'as tout lâché, quand, ouais, tu crois que tu vas mourir. Donc c'est un fait réel hors du commun. Le 13 janvier 2018, un message d'alerte et missile nucléaire est diffusé sur tous les médias de Hawaï. Cette annonce d'une attaque du régime nord-coréen a semé la panique et la confusion parmi la population locale, avant d'être vite démenti. Et oui, ils ne sont pas à leur première alerte, d'ailleurs.
Ouais, ils font des tests
Oui, je pensais à Pearl Harbor.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, ça aussi.
Le 7 décembre, là, c'était pas, là, c'était une vraie alerte.
Enfin, ils y croyaient pas. Hein.
Ils y croyaient pas trop. Ouais. Donc, c'est Vincent Juillet, co-scénariste du film, qui a découvert cette incroyable histoire vraie dans un journal et a estimé qu'il serait fait, que cela ferait une bonne matière pour un long métrage. Mélissa Drigard a décidé de faire de cette affaire non pas le sujet de son film, mais un postulat pour évoquer les relations humaines. Et comme elle nous dit, et puis il y avait quand même une part de comédie dans le sujet. La vraie fausse alerte, le fait que quelqu'un ait appuyé par erreur sur le bouton rouge et que le gouverneur d'Hawaï ait mis 45 minutes à retrouver le mot de passe pour désactiver le système.
C'est affreux ça. On imagine.
Oh la panique. Ouais. Des histoires auxquelles on a du mal à croire, mais qui sont pourtant vraies. Donc pour la réalisatrice, Hawaï est une auscultation de tous ces non-dits et tiraillements dans un groupe en apparence soudé. Selon elle, bon nombre de thématiques abordées dans le film, comme la tromperie, le désir, le secret, l'argent, la réussite, peuvent résonner chez les spectateurs. Écrire ce long métrage a été cathartique pour elle, d'autant plus que cela s'est déroulé durant le confinement, entouré d'amis et de leurs enfants. Et comme elle nous dit, c'était fou d'écrire ce film sur l'éventualité d'une bombe et de se retrouver en confinement. Autant dire qu'on était très inspirés. Il s'en est écrit des films pendant le confinement. Donc le film n'a pas été tourné à Hawaï, mais sur l'île de la Réunion.
Ah, c'est pas pareil.
C'est un petit peu différent. Et comme elle nous dit, bien que les deux îles soient distantes de plusieurs milliers de kilomètres, et ça c'est sûr, hein, leur paysage volcanique se ressemble à s'y méprendre, mais pas les villes. On a donc pas mal réécrit le scénario pour qu'il se déroule davantage dans la nature ou en bord de mer, révèle la réalisatrice. Plusieurs éléments de décor, comme tous les intérieurs de l'hôtel, ont dû être construits. Il a fallu également trouver des accessoires qui donnent l'illusion d'être sur un territoire américain. Eh oui, des planches de surf, aux voitures, en passant par la signalétique routière.
Ouais.
Eh oui, c'est important quand même. Donc la réalisatrice voulait des acteurs venus d'horizons différents. Elle avait en tête, pendant l'écriture, plusieurs films de bandes, avec l'idée que, dans la plupart des cas, ce sont des bandes qui existent dans la vraie vie qui font un film ensemble. Là, la difficulté était de réussir à en créer une et que la mayonnaise prenne réellement. Le résultat a été instantanément au-delà de mes espérances. La complicité s'est imposée tout de suite. On était à La Réunion, on sortait tous de confinement et c'était fantastique de se retrouver là-bas. Il y avait comme une magie d'être ensemble, d'autant qu'on était conscient, qu'on avait une chance folle d'avoir pu voyager sans que personne n'attrape le Covid.
Tu m'étonnes.
Moi je dis c'est chouette quand même, tu pars en tournage.
Bah ouais.
À La Réunion, juste après le confinement, quand tu t'es fait enfermer.
Bon, là-bas il faut pas se baigner. Hein.
À La Réunion, c'est vrai ?
Il y a des requins.
Il y a du gros poisson qui mord les gens.
Ouais, c'est ça.
Voilà pour vous donner un petit éclairage sur donc le dernier film donc de Mélissa Drigard, donc Hawaï, à découvrir à la brèche cette semaine.
Eh bien, on va retrouver la bande-annonce tout de suite sur Radio Grand Air.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Une alerte missile ?
Vous êtes où là ?
C'est une alerte missile, faut pas rester là !
Je sais où on peut se planquer, mais laissez-moi !
Je
veux
pas croire.
Je voulais vous dire, je suis fier d'être votre ami. Je vous aime.
Moi aussi, on t'aime.
Moi aussi, je vous aime.
Et toi, l'homme le plus extraordinaire.
Je t'aime, Anton. On aurait dû rester ensemble.
Pardon ?
Vous avez été ensemble, hein ?
Tout le monde était au courant, là ?
On te supporte parce que t'es la femme de notre pote, mais on t'aime pas !
Tu te souviens de ce que tu me faisais avec la crème chantilly ? Je peux plus manger de chantilly sans penser à toi.
C'est vrai, vous aimez pas mes spécialités ?
Si.
Moi, je suis une faux cul.
Tout le monde les hait ici, t'es mort.
Vous les appelez comment ?
Est et choléra. Vous voulez pas qu'on se dise plutôt qu'on s'aime, hein ?
J'ai envie de te licher partout.
Allez, vous avez pas l'air au courant, là, mais c'était une fausse alerte. Elle démarre bien les vacances. Hein.
On a tous eu très peur, on n'était pas dans notre état normal. Faut que tu redescendes là.
Je suis désolé pour peste et choléra, voilà, ça va. Mais dégage, merde!
J'espère que tu me pardonnes. En tout cas, moi, je pardonne à tout le monde.
Ah ben, moi, je pardonne pas. Hein.
T'es pas gentil de faire ça à son ami.
On se dit qu'on s'aime et tout est effacé.
Par rapport à la chantilly, est-ce que vous vous interrompez ?
Arrête,
quelqu'un se lève et va chercher.
Je te jure, c'est dur.
La crème au frigo ?
Non, c'est dur.
Ou bien est-ce que vous la sortez au préalable ?
Voilà, Hawaï. Pourquoi pas ? Pourquoi pas y aller à Hawaï ? Ce serait bien d'aller faire un petit tour.
Ouais, mais j'ai plein de choses à voir là-bas, surtout au niveau historique.
Ah ouais ?
Ah ben oui. T'as Pearl Harbor.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Oui, il a été rappelé sur le site quand même.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, il paraît que c'est magnifique.
Après,
le temps
évidemment,
est égal.
C'est le surf, les jolies filles, les vaïnées, et puis la plage, c'est ça aussi.
Il
bon,
y a des petits clichés, on va dire.
Pas que l'histoire. Oui, bien sûr.
Bon, écoutez, si vous n'avez pas l'argent pour aller à Hawaï, venez à la Brèche voilà. Pour le voir, ce film.
Ouais, c'est moins cher.
C'est moins cher. Et même si ça n'a pas été tourné à Hawaï. Bon, enfin bref, oui. C'était la petite parenthèse. On enchaîne avec le principal. Nous allons dans le monde de l'éducation cette semaine à la Brèche.
Oui, on va revenir en France. Oui, on va parler du dernier film de Chad Chenouga. Donc, le principal. Le principal, c'est le rôle de...
Ouais, ça me fait penser au proviseur.
Lycée, le proviseur, ouais, c'est un petit peu ça, ouais.
Il y a eu le film, le proviseur.
Oh, c'est possible. Oh, ça me dit quelque chose.
Ouais, ouais. Ah oui, le proviseur. Alors, c'est le principal, ouais.
Oui. C'est un film français d'une heure 22, c'est un drame, donc de Chad Chenouga. Et au niveau des acteurs, on va retrouver Rush Dizem, Yolande Moreau, Marina Hentz, Eddie Bouchenafa, Yannick Chara, Djibril Bira, Philippe Duquesne et Agnès Sora. Il n'y a que des revenants aujourd'hui. Agnès Sora qui revient de loin.
Parfait.
Ah, c'est marrant parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps le film avec Coluche, Ciao Pantin.
Ah oui.
Très bon film.
Oui.
Très bon film. Et Richard Candina aussi qui joue dedans. Je trouve qu'il a bien vie ce film-là, Ciao Pantin. Et avec un grand Coluche.
Ah oui, excellent Coluche dans ce film.
Oui.
Alors, le proviseur, j'ai retrouvé 1987, hein. C'était avec un certain James Bellucci. Ah. Et justement, ça traitait d'un collège un petit peu compliqué. Voilà, c'est un vieux film de 87, tout simplement. Donc, le principal.
Alors, le principal, oui, c'est l'histoire de Sabri Lahali, qui est principal adjoint d'un collège de quartier et qui est prêt à tout pour que son fils, sur le point de passer le brevet, qui est prêt à tout. Pour que son fils passe le brevet. Donc, pardon. Mais il ne doit pas, mais il ne sait pas jusqu'où son entreprise va le mener. Alors, Chad Chenouga avait présenté son film précédent, hein, qui s'appelait De toutes nos forces, dans un ciné-club où le public était constitué en grande partie d'enseignants. Parmi eux, deux profs d'histoire ont raconté aux réalisateurs qu'ils avaient travaillé sous les ordres d'un principal adjoint atypique qui avait trahi sa fonction. Il avait triché en utilisant un corrigé pour son fils qui passait le brevet.
Ce n'est pas joli, joli.
Mais là, combien... Mais comme il était bien noté, l'Académie avait étouffé l'affaire. Il avait même été nommé principal dans un autre collège. Donc pour le principal, Chad Chenouga s'est inspiré de lui-même et de son frère. Il précise, j'ai un frère comme celui de Sabri, Saïd, qui a le même genre de fragilité mentale. Quand on va sur la tombe de notre mère, comme le font Sabri et Saïd, il nous est arrivé de jouer à « Ni oui ni non ». Ce sont des moments qui nous ramènent à l'enfance et je m'en suis servi pour le film. Cette relation avec mon frère a beaucoup apporté au personnage. J'ai dit à mon frère que ce Saïd était à la fois lui et pas lui. Mais dans le fond, c'est beaucoup lui. Donc évidemment, on parle du thème du mensonge. Donc un des grands sujets du principal est le mensonge. Dans 17 rues bleues, le premier film de Chad Chenouga, le metteur en scène évoquait le fait que sa mère avait eu un amant sans être mariée en Algérie. Et comme il nous dit, elle avait 21 ans et c'était un vrai scandale. Un industriel l'avait prise sous son aile et je suis né en France à la fin de la guerre d'Algérie en 62. Quand des années après, cet homme est mort, ma mère a fait un faux testament pour pouvoir hériter d'une partie de sa fortune. Du coup, il y a eu un procès qui l'a miné. Elle en est morte. Moi, je n'étais pas le fils de cet industriel. Ma mère me faisait croire des trucs sur mon père et elle ne nous a jamais appris l'arabe à mon frère et moi. Bref, j'étais en porte-à-faux. Sans compter qu'on m'appelait Robert, qui est mon deuxième prénom. Tout petit, après la maternelle, un maître m'avait interrogé sur mon prénom et il avait décidé de m'appeler Robert. Quelle horreur. Quelle horreur. Et j'ai repris mon prénom, Chad, longtemps après, quand j'avais 19 ans. Alors, c'est marrant parce que t'avais des profs, des fois, qui renommaient les élèves.
Ah oui.
Mais j'ai vu ça.
Alors moi, je l'ai pas vu.
Alors moi, j'ai vu ça, cette fois. Alors, il y en a qui faisaient de l'humour avec, hein.
Ouais.
Et qui déformaient un peu les noms de famille, juste pour se marrer.
Oui, ça,
Et ça faisait marrer tout le monde.
Nous avions le même professeur.
Et là, je suis d'accord. Oui, monsieur Kakuo.
Ah oui, exactement.
Grand professeur de musique.
Très bon joueur de baby-foot.
En plus, ouais. Donc lui, ça va, c'est la déconne.
Ouais.
Mais j'avais un prof, que j'ai pas nommé, hein, qui coupait mon nom en deux. Je suis né avec une particule, je ne suis point de la noblesse de France et de Navarre, ni de la noblesse royale, ni d'empire. Je viens d'un milieu agricole, et lui, je sais pas ce qu'il... Il coupait ma particule.
Ah ouais. Ah, c'est original.
Ouais. Donc j'étais même plus dans les D, tu vois, j'étais dans les L.
Ah bon, d'accord.
Ouais. Et c'est pas bien de faire ça.
Ouais.
C'est pas bien du tout. Et c'est très chiant. Donc j'imagine que ce pauvre gars là qui se fait appeler Robert, il a un autre nom. Franchement, quand t'es gamin, ça mine parce que tu te poses des questions, tu te dis mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors moi je pense qu'avec du recul en ce qui me concerne, je crois que c'est des histoires de politique, tu vois, ou
ouais.
des mecs ils ont des idées que j'ai préétablies. Enfin voilà, en plus à l'époque nous on roulait pas sur l'or, tu vois, mon père était ouvrier, tu vois, on trimait comme tout le monde.
Ah, hein, c'est tellement une fausse.
Mais non, il a enlevé la particule. Alors, peut-être qu'il est, je sais pas, ouais, il a peut-être été traumatisé, ou voilà, peut-être dans une vie antérieure, et il était, je sais pas, sans culotte, un peu énervé. Donc voilà, non, ne triturez pas les noms aux enfants, c'est pas bien du tout. Alors, déjà, quand t'es à l'école, t'es pas super bien, mais alors si en plus on te matraque ton patronyme, bon, ça va pas arranger les choses.
C'était une époque.
J'ai toujours détesté l'école pour ça. Ouais. Pour bien des choses, mais en partie aussi pour ça, quoi. Bon, on n'est pas là pour faire la thérapie de groupe, on va reprendre le principal. Donc, Charles Sinouga, il a tourné le principal pendant le confinement à Mulhouse et dans les quartiers de la périphérie. Et il se souvient, on avait besoin d'un collège intéressant à filmer, ce qui n'était pas évident. Celui-ci est très graphique. Il fallait aussi qu'il y ait une cité. Ça pouvait se trouver n'importe où à condition que les décors me plaisent. C'est très important d'avoir de bons décors pour de multiples raisons. Les atmosphères, la profondeur de champ, la crédibilité. On doit y croire, mais sur quoi est fondée notre croyance quand on voit un film? Qu'est-ce qui fait que l'on est pris ou pas? Ça, c'est la grande question. Le principal, à découvrir La Brèche cette semaine.
Voilà, et c'est un job pas facile.
Oui, je sais pas. Je connais pas trop. Je connais pas trop les métiers de l'éducation.
On écoute la bande annonce sur Radio Grand Air.
Un peu de silence dans les couloirs, s'il vous plaît. Un peu de silence.
Vous êtes le meilleur collaborateur que j'ai jamais eu. Avec vous, j'ai passé mes plus belles années de collège.
Alors comme ça, tu vas devenir président.
Comment ça, président?
Ouais, enfin, directeur principal.
En vrai, je suis fier de toi.
C'est la première fois que t'as pas eu les félicitations. Les moyennes ont beaucoup baissé au troisième trimestre.
S'il te plaît, ne lui mets pas la pression.
Excuse-moi d'être attentif à l'éducation de mon fils.
Et pourquoi les choses peuvent jamais être simples avec toi?
Il a l'air très équilibré comme gamin. Il vous regarde avec beaucoup d'admiration, vous savez.
Naël, qu'est-ce que tu fais là?
Quoi, je discute juste avec mon oncle.
L'autorité qui revient au quartier.
Pourquoi tu fermes pas juste ta gueule?
L'homme D. C'est l'histoire d'un homme qui décide de transformer sa vie en un jeu de hasard.
Ça peut m'intéresser, ça. Bonne chance à tous.
En français, j'ai assuré, mais les maths, par contre...
Quoi, les maths?
Dans l'histoire, j'ai pas tout vu.
Comment ça, t'as pas tout vu? C'est demain, l'histoire. Je t'avais des fiches un peu synthétiques, ça devrait t'aider. Ah, ta mention au brevet?
Bon anniversaire, mon chéri.
Sabri, vous pouvez venir, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui se passe avec Naël?
Calme-toi, y a rien de grave.
Qu'est-ce que t'as fait?
Comment vous expliquer tant de similitudes entre le corrigé type et la copie de votre fils?
Vous avez quelque chose à me dire, Sabri?
Ça, c'est la poisse.
Et oui, quand tu t'es chopé la main dans le pot de confiture, je ne sais. C'est, oui, évidemment, c'est le thème du mensonge. Puis je trouve que c'est un thème intéressant.
Ouais. À chaque année, il y a toujours des petits soucis avec les copies qui disparaissent.
Il y en aura toujours. C'est quoi? J'ai vu des choses assez intéressantes là. Là, en ce moment, il y a un truc qui s'appelle ChatGPT.
Ah ouais?
Oui. Et il y a des gens apparemment qui ont fait leur devoir avec. En fait, tu leur poses des questions et le truc, c'est un cerveau, il te synthétise tous tes devoirs.
Ouais.
Et ils sont servis de ça. Bon. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais demander à une machine de te pondre ton devoir, c'est pas non plus terrible. Je ne chéris pas l'école, je n'ai jamais été passionné par l'enseignement, mais bon, il y a des limites quand même. C'est ça.
En tout cas, allez voir le principal cette semaine à La Brèche et vous en ferez une petite idée. On va revenir sur notre rendez-vous, l'amour et les forêts, avec le retour d'une actrice que tu vas nous représenter dans quelques instants, Pascal.
Oui, c'est Virginie Efira. Et Melville Poupeau aussi, je suis content de le revoir. Melville Poupeau, oui. Oui, l'amour et les forêts. Hop là, mes fiches. Merci. un film français, donc d'1h45, c'est un thriller, un drame. Hein,
ouais.
De Valérie Donzelli. Alors, là, il y a une sacrée distribution, évidemment. Virginie Fira, bon, évidemment, que vous connaissez tous. Melville Poupeau, qu'on ne voit pas trop, mais qui revient. Et ça, c'est très bien, parce que c'est un très, très bon acteur. Hein. Dominique Raymond. Roman Bouringer, pareil, qui fait son retour aussi. Ça fait longtemps qu'on ne
l'avait pas vu. Oui, on ne l'avait pas.
Une autre aussi.
Longtemps au cinéma, ouais.
Virginie Ledoyen.
Ah oui.
Très bonne actrice. Marie Rivière. Kwang Wo. Et Laurent Scott. Donc, quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense rencontrer celui qu'elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l'emportement. Le couple déménage et Blanche s'éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, et s'ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l'emprise d'un homme possessif et dangereux. Alors, c'est un nouveau genre donc pour Valérie Donzelli. Donc, L'amour et les forêts est adapté du roman du même nom d'Éric Reinhardt, que Valérie Donzelli a lu pendant le tournage de Marguerite et Julien en 2015. La réalisatrice y a trouvé d'immédiates résonances personnelles, comme cette disposition que l'on a à ne pas complètement exprimer ce que l'on ressent par peur de ne pas être aimé, et elle confie. Mais ce qui m'a vraiment décidé à l'adapter, c'est la scène où Grégoire, l'amoureux, fait son mea culpa après avoir entendu à la radio le portrait d'un homme maltraitant sa femme. Comment il retourne la situation pour se poser en victime, et comment ce stratagème pervers fait mouche parce que la véritable victime de ses agissements ne sait pas y résister. Mais adapter ce roman me semblait difficile et j'ai repoussé l'idée sans l'oublier. Ensuite, j'ai réalisé Notre-Dame, un film léger qui a été très réparateur. Et Nona et ses filles, ma série sur laquelle j'ai énormément appris. Mettre en scène une série avec autant de personnages tout en jouant dedans dans un temps record était un vrai baptême du feu. Plus rien ne me faisait peur après ça. J'avais envie de revenir au cinéma avec un film où je ne serais que metteur en scène et avec l'envie aussi d'explorer un autre genre. Donc Valérie Donzelli a voulu faire un film à la fois très mental et très incarné. Si les scénarios écrits par la réalisatrice sont souvent un peu relâchés, selon ses propres termes, celui de L'amour et les forêts est au contraire très tenu. Très ténu, pardon. Je l'ai écrit avec Audrey Divan, qui est une formidable partenaire pour moi, avec une maîtrise très forte de l'écriture. On dit qu'on fait un film contre son scénario, c'est vrai. De tous mes films, et plus que jamais de celui-là, raconte-t-elle en ajoutant « Notre scénario était fort, c'était une base très solide, il fallait donc danser et lutter avec et contre lui. Je l'ai déchiré. Malmené surtout au montage, ou parce que je sentais qu'il fallait donner un tour plus mental au film, j'ai travaillé sur l'ellipse et arraché des morceaux du récit. Comme « Nous ne vieillirons pas ensemble » de Piala, qui est construit sur des ellipses. Une ellipse, ça nous prend toujours de vitesse, on rattrape des choses après coup, et ça nous éloigne du film à sujet. » Donc Valérie Donzelli a choisi Virginie Fira avant même de commencer l'écriture. C'est une actrice qui génère de l'empathie, quoi qu'elle fasse, quel que soit le personnage qu'elle incarne. Elle pourrait jouer le pire des monstres, on l'aimerait quand même, au moins un peu. Et cette empathie était cruciale dans le rapport au spectateur. Juste avant le confinement, je lui ai offert le roman en disant que j'aimerais l'adapter pour elle. Elle l'a aimé et a tout de suite accepté le rôle, confie la cinéaste. Elle poursuit au sujet de Melville Poupeau. En revanche, je n'avais personne en tête en écrivant le personnage de l'amoureux. Et puis un jour, Melville a surgi et m'est apparu comme une évidence. J'ai regardé des photos, je l'ai trouvé beau, et je me suis souvenu combien il était génial dans « Grâce à Dieu ». J'en ai parlé à Virginie qui a tout de suite été enthousiaste. Melville en Grégoire l'amoureux, je trouvais ça inattendu. Il n'avait jamais eu ce genre de rôle. Il l'a accepté immédiatement et a pris à bras le corps ce personnage monstrueux tellement éloigné de lui. Alors, Virginie Fira est entourée par des actrices que l'on voit moins aujourd'hui. Et oui, comme Virginie Ledoyen, Roman Bouringer, Laurent Scott, Nathalie Richard ou encore Dominique Raymond. Alors que l'interprète de Blanche tourne beaucoup, elle nous dit « Je voulais absolument que Virginie, qui est une star d'aujourd'hui, joue avec des actrices du même calibre qu'elle. Je voulais que Blanche soit entourée uniquement par des actrices qui ont joué dans des grands films, des actrices qui rassurent et qui lui assurent une protection », confie Valérie Donzelli. Je trouve que c'est une belle idée, ça.
Oui, c'est vrai.
C'est une belle idée. Mmh. Et donc, pour interpréter Blanche, donc Virginie Fira a commencé par évacuer toute idée préconçue et stéréotypée de la victime et a cherché à donner une identité singulière au personnage. La comédienne explique « Alors on s'appuie sur nos propres vies, mais sans en avoir conscience, sans le formuler et sans chercher à tout prix à calquer son interprétation sur son vécu personnel. Ce serait terrible si on était condamné à ne reproduire que des choses qu'on a vécues. Les biographies de chacun, acteurs et personnages, n'ont pas tant d'importance au fond. Nos émotions, nos souvenirs, la mémoire du corps, ça représente peut-être une part infime de notre manière d'interpréter un rôle, mais c'est toujours bon à prendre. Ce sont autant de portes d'entrée. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur le dernier film donc de Valérie Donzelli que nous aurons à la brèche cette semaine.
Voilà, et qui fait partie aussi de la sélection de Cannes cette année.
Oui, exact.
On va découvrir la bande-annonce ensemble sur Radio Grand Air.
J'étais folle de lui.
Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier.
Il était d'une tendresse infinie.
Oh, je t'aime. J'aime tout.
Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage.
Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi?
Ah, j'échange la mer contre les forêts.
Et l'amour.
De ton mari.
Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi.
Pourquoi tu m'as raccroché au nez?
J'étais en cours.
Tu rentres à quelle heure?
17h, pourquoi?
Il t'appelle tout le temps ton mari, hein?
Oui, c'est comme ça. Bah t'es complètement fou.
Bah, je te parle, mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi.
Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible.
Et vous suivez?
T'étais où? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où?
Oh, Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre.
L'amour et les forêts, voilà, de la jalousie.
Oui, c'est un film, ouais, sur l'emprise,
l'emprise,
la possession, les passions dangereuses,
ouais.
et destructrices. Oui, oui. Alors, nous aurons le film en sortie nationale. J'ai oublié de le mentionner.
C'est magnifique. Eh bien, justement, on va revenir sur une actrice qui fait son retour et qui sera d'ailleurs dans ce film L'amour et les forêts que vous pouvez voir donc à l'occasion de la sélection du Festival de Cannes. À la brèche, bien sûr.
Absolument. Alors, avant de parler de Romane Bourrager, je voulais quand même vous parler d'une opération.
Voilà, je vois que tu as une belle affiche.
T'as vu la taille du papier?
Ouais, c'est magnifique. Hein.
C'est bien, parce que je vois très mal. Donc,
ouais, t'étais comme moi, on est vieux. Hein, donc,
Oui, on commence vraiment à avoir de la bouteille. On va parler des saisons Anabi. Alors, c'est quoi les saisons Anabi? Alors, on en avait déjà discuté. Alors, Anabi, ça veut dire feu d'artifice, hein, entre parenthèses. Hein.
Ouais.
Et chaque saison... il y a donc une sélection de films japonais que l'on passe en avant-première ici à La Brèche. Hein. On a déjà fait. Alors moi, ce que j'aime beaucoup sur le festival des saisons Anabi, c'est leurs affiches. Ils font des affiches absolument superbes. Celle que tu vois ici, tu vois, c'est le printemps.
Ah, c'est magnifique. Hein.
Oui, moi j'adore. Et à chaque fois, tu as toujours une belle japonaise avec des fleurs derrière et tout. C'est travaillé. Hein, j'aime beaucoup l'esthétique. Alors on aura donc, alors ça je vous présente l'opération donc qui aura lieu donc du 31 mai au 6 juin. On va passer 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va parler 1, 2, 3, 4. On va passer 7 films.
Ouais.
On va passer Love Life. Ça on reviendra dessus, je vous en parlerai un peu plus longuement parce qu'on aura une intervention de ma collègue qu'on a reçue ici sur Radio Grand Air qui s'appelle Marjorie.
Exactement.
Marjorie donc, qui est ma collègue de Artec hein, qui vient ici donc, présenter des films et discuter donc, avec les spectateurs. Hein. Donc ça sera le mercredi 31 donc à 20h à la Brèche. Hein. On va parler donc de Love Life. On va passer aussi Rendez-vous à Tokyo. Ça, c'est, voilà, je vous sors les titres, on reprendra ça un peu plus tard. Hein. On va parler de La beauté du geste, on va passer aussi Coming Soon, on va passer A Man, on va passer aussi Comme un lundi, ainsi que La comédie humaine. Donc voilà, le Festival Anabi. Alors, il faut faire attention quand même aussi au Festival Anabi, c'est que c'est un film, c'est une date.
Ah oui, d'accord.
Faut pas se louper, ouais.
D'accord.
Oui, mais c'est pas des films qu'on va passer sur plusieurs
séances. Ils sont en version originale?
Ils sont tous en avant-première. Hein. Ils sont tous en version originale, tu penses bien. La Brèche, c'est une spécialité ici, tu sais. Ben, imagine, bon, évidemment, ça peut passer. Un film japonais, ça peut passer en français. Mais ce n'est pas le but de l'opération des saisons Anabi. Hein. Évidemment, c'est de l'immersion dans la société japonaise. Et je trouve ça très chouette qu'on revienne là-dessus. Donc voilà, les saisons en habit, à la brèche, ça sera le 31, du 31 mai au 6 juin.
Voilà, vous aurez une programmation spécifique sur le petit programme que vous recevez, que vous trouvez un petit peu partout sur le pays foyen, qui vous donne d'ailleurs les horaires et puis... Et puis les dates des diffusions.
Exactement. Et ensuite, pour les plus petits, là, on va passer aussi en sortie nationale, mais ça sera quand même pour le 7 juin. Parce que mine de rien, le mois de juin, il va être un petit peu chargé. Et tant mieux d'ailleurs. On va passer Transformers.
D'accord.
Dans The Rise of the Beast, ce qu'on aura en 2D, en 3D, je sais que ça, c'est des films qui sont super fréquentés.
Ouais.
Transformers a cartonné, ils ont tous cartonné d'ailleurs au ciné. Et voilà, on reviendra dessus, mais enfin voilà, je voulais vous les présenter un petit peu à l'avance, et puis oui, je ferai une fiche sur ces films-là très bientôt.
Merci Pascal pour ces détails. On revient donc à la comédienne qui fait son retour cette semaine dans un film qui, je le disais, est en compétition au Festival de Cannes, L'amour et les forêts. C'est Romane Bourringer.
On va parler de Romane Bourringer. Oui, j'aurais pu en prendre d'autres, mais je me suis dit, bon, ça fait tellement longtemps qu'on l'a vu, Romane Bourringer. Oui. La dernière fois, on l'a vu apparaître, je crois que c'était en 2019, pour Une sirène à Paris. Oui, une petite apparition. Romane Bourringer, on va parler de sa vie. Elle est actrice, scénariste, réalisatrice. Elle est née le 14 août 1973 à Pont-Saint-Maxence. C'est où Pont-Saint-Maxence?
J'adore.
C'est là-haut.
C'est là-haut? Oui, exactement, là-haut.
Je ne peux pas me tromper.
C'est dans l'Oise.
Ah oui, très bien.
C'est dans l'Oise.
Oui, parfait.
Donc, c'est une fille, une jeune fille de 49 ans. Ouais. Donc, Romane Bourringer, c'est 36 années de carrière, 75 films et séries tournées. Deux prix. En 2019, elle a eu le Swan d'or du meilleur premier film pour L'amour flou. Oui, c'est ça, sa réalisation. Elle a réalisé ce film-là. Et en 93, à César du meilleur jeune espoir féminin dans un film de Cyril Collard. Pour quel film?
Ah oui.
Ah.
Ah bah tu m'as dit Collard, mais...
Les nuits...
Fauve.
Les Nuits Fauves, bien sûr.
Exactement,
bien sûr.
Ouais. Très bon film.
Absolument. Oui, mais un film qui a cartonné au cinéma, Les Nuits Fauves. Donc on va parler un petit peu de sa filmographie. Donc on va la voir apparaître en premier, Romane Bourringer, dans un film en 86. Là, devait être quand même super jeune. Un film qui s'appelle Kamikaze, de Didier Grosset, avec Dominique Lavanant et Michel Galabru. Elle devait être vraiment, vraiment toute jeune, d'avoir plus d'une dizaine d'années. En 92, évidemment, on va la voir dans Les Nuits Fauves de Cyril Collard, avec Cyril Collard et Carlos Lopez. En 93, oui, on la voit. Et moi, je la vois très bien d'ailleurs. Elle fait une apparition dans le film d'Evangelo, un de ses plus grands films, Evangelo, un film que j'adore, que j'ai vu peut-être 20 fois. Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, André Dussolier, Fabrice Lucchini, le colonel Chabert.
Ah oui.
Et oui, ouais. On la voit
exact.
À un moment. Alors, je vais te dire, tu te souviens de ce film-là?
Oui.
Romane Bourringer, on la voit à un moment quand elle. Tu vois à un moment quand Fanny Ardant, qui était son ancienne femme, la comtesse Ferraud, l'amène dans sa propriété privée à Gérard Depardieu pour, donc au colonel Chabert, pour lui faire signer sa renonciation à sa vie antérieure, à son titre, à son nom. Et c'est une scène qui est terrible. C'est une scène avec le notaire d'ailleurs. Je sais pas, tu te souviens de cette scène avec le notaire. Et à un moment, quand il rentre, il se dit, alors évidemment, il attend d'être reçu par le notaire, et il rentre dans le salon, et là, il dit, tiens, vous faites l'argent. Vous faites l'argenterie. Tu vois cette scène-là? Il y a deux actrices qui sont déguisées en bonnes. Tu as Julie Depardieu. Et la deuxième, c'est Romane Bourringer. Voilà pourquoi je me souviens d'elle dans ce film-là. En 98, on va la voir dans Rembrandt de Charles Maton avec Jean Rochefort, Klaus Maria Brandauer. En 2005, on va la voir dans un film de son père.
Oui, Richard.
Quel film? Oh.
Ah oui.
C'est beau.
Ça me parle.
C'est beau. Une ville la nuit.
Ah oui, non, j'aurais pas. Pas retrouvé.
En 2007, on la verra dans Le bal des actrices de Maïwenn avec Jeanne Balibar et Julie Depardieu. En 2014, on la verra dans Les Rois du Monde de Laurent Lafargue avec Sergio Lopez et Eric Cantona. Ça dit quelque chose, Les Rois du Monde, non? En 2018, on la verra dans Vaurien de Mehdi Senoussi avec Carlo Brandt et Lizzie Brocheret. Et en 2019, on la verra dans Une sirène à Paris de Mathias Malzieux avec Nicolas Duvauchel et Marilyn Lima. Voilà un petit peu quelques films où on voit évidemment évoluer donc Roman Bourget.
Oui, j'en suis Baba.
C'est vrai, pourquoi?
Non, je pensais pas qu'elle avait fait autant de films. Enfin,
elle était apparue dans 75 films et séries tournées. Oui, non, c'est pas rien. C'est quand même 36 années de carrière. Non, c'est quand même une grosse carrière pour Roman Bourget. Et puis, on l'a pas mis les pieds dans le monde du théâtre.
Oui, c'est vrai.
Je suis pas sûr qu'elle ait fait du théâtre, mais en général, oui, ils sont aussi sur les planches, ces acteurs-là, quoi. Mais là, j'en ai pas la confirmation. J'ai pas regardé un petit peu. J'ai pas poussé de ce côté-là, on va dire.
Alors, Roman Bourget.
Bourget, oui. On va parler de sa biographie.
Bon, papa, on le connaît, hein, c'est Richard.
Et oui, c'est Richard Bourget, bien sûr, que vous connaissez tous ou que vous avez connu, parce que je sais pas ce qu'il est devenu, très sincèrement.
Non, plus de nouvelles.
Plus de nouvelles, hein. Donc, évidemment, sa biographie, donc fille de l'acteur français Richard Bourget. Roman Bourget fait sa première expérience du 7e art aux côtés de son père pour le film Kamikaze, alors qu'elle est encore adolescente. L'année de son bac, elle est engagée au théâtre par Peter Brook pour incarner Miranda dans La Tempête de Shakespeare. Cette expérience la bouleverse et la persuade définitivement de devenir comédienne. En 92, Cyril Collard lui confie le rôle douloureux de Laura dans Ces nuits fauves. Succès surprise, ce film lui apporte la célébrité et un César du meilleur espoir féminin. Elle aime à camper des personnages tourmentés, jeunes filles effacées vivant par procuration chez Claude Muller dans L'accompagnatrice, peintre introverti par Martine de Goffson dans Minna Tannenbaum. Oh, je l'ai oublié celui-ci. On a passé à la brèche aussi. Ou encore déséquilibrée manipulatrice chez Gilles Mimouni dans L'appartement. Forte de sa popularité, Roman Bourget est engagé en 1995 dans une grosse production européenne et elle incarne la femme envahissante de David Thewlis dans Rimbaud Verlaine d'Agnieszka Hollande. À la fin des années 90, elle mène une activité théâtrale dense et s'éloigne un peu du grand écran. Oui, c'est bien ce que j'avais dit, donc elle a fait quand même beaucoup de théâtre. Et s'éloigne un peu du grand écran, choisissant ses rôles avec parcimonie. Après quelques films confidentiels et courts-métrages, Roman Bourget revient sur le devant de la scène en 2001 avec le conte fantastique Le Petit Poucé. L'année suivante, sa route croise celle du réalisateur Benoît Cohen qui lui offre l'un des rôles principaux de Nos enfants chéris, puis de Qui m'aime me suivent en 2005. L'actrice n'hésite pas à participer à des projets ambitieux et elle prête sa voix au documentaire animalier de Luc Jacquet, La marche de l'empereur. Suit Chantal Richard en Afrique pour le mélancolique Lily et le Baobab, soutient le premier long métrage du jeune Djibril Glissant en incarnant une mystérieuse jeune femme dans Son éclaireur et n'hésite pas à jouer son propre rôle dans le film de Richard Bourget qui est C'est beau une ville la nuit, adaptation de son roman homonyme. Voilà un petit peu pour vous donner une idée, on va dire, de la carrière de Roman Bourget, qui apparemment choisit ses rôles avec parcimonie, mais j'imagine, oui, c'est, elle n'a pas les mêmes romans qu'une Virginie Efira ou ce genre de choses. Écoute, c'est tout à son honneur de choisir consciencieusement ses rôles.
Et tu le disais, effectivement, elle a fait pas mal de théâtre, elle continue toujours à faire du théâtre avec beaucoup de récompenses, justement. Ah. Voilà, donc c'est toujours intéressant de savoir qu'en 2013, par exemple, elle a été récompensée pour le coup de cœur théâtre public pour J'avais un beau ballon rouge, palmarès du théâtre, voilà, c'est un prix. César du meilleur espoir féminin pour Les Nuits Fauves, tu disais 1993.
Oui, grosse révélation là.
Côté film. Et puis le prix Beauregard pour Les Nuits Fauves, à nouveau 1992. Oui. Voilà, beaucoup de récompenses et on lui souhaite bon vent.
Bien sûr.
Cette Roman Bourget qu'on espère revoir aussi par la suite sur d'autres projets en tout cas.
Oui, voilà, c'est un plaisir qu'on la retrouve. Mais c'est vrai que tout le monde, quand on dit Roman Bourget, souvent, tu as Les Nuits Fauves qui reviennent pour ceux qui étaient vraiment là et qui l'ont découvert à l'époque. Oui, parce que c'est le film qui parlait du sida aussi.
Exactement.
Tu vois, c'était un gros sujet le film. Hein, c'était pas qu'une amourette.
C'était un film un petit peu sauvage.
Ouais. Et c'était vraiment, c'était vraiment pour faire la lumière là-dessus. Et ce film a vraiment, vraiment, vraiment cartonné dans les salles. Et le film est super bien, il était très bien. Moi, évidemment, il est passé sur les ondes à la télé. C'était vraiment un grand film de Cyril Collard.
Voilà, on aura d'autres événements qui vont arriver sur ce mois de juin, tu le disais Pascal, avec des temps forts et puis des grosses productions. Hein.
Ah mais oui, déjà,
on
a déjà
parlé, et on en parle beaucoup en ce moment au Festival de Cannes, Alors, avec Harrison Ford.
Voilà, moi, je parlais de Transformers, mais qui sort bientôt, là. Je redis la date quand même, ça sera à partir du 7 juin. Mais évidemment, Indiana Jones revient le 28 juin.
Certainement le dernier.
Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu, ce qu'en disent les critiques. Et, mais oui, après, ça, c'est pour les fans, on va dire, pour les fans de la série, des Indiana Jones. Je ne sais plus de quand date le premier.
Mais le cadran de la destinée, hein, c'est le nom de ce nouveau film qui donc sera forcément sur les écrans avec là aussi une belle musique enjouée.
Il y a ça,
John Williams signe.
Et puis apparemment, ils font des clins d'œil aux anciens opus.
Ouais.
Il y a des clins d'œil.
D'accord. Et je pense que ça sera le dernier.
Ben à 80 ans, oui. Il fallait éviter de sautiller et de faire attention aux cascades. Alors,
ouais, je pense en plus qu'il avait été blessé sur l'une des scènes Harrison Ford. Donc, évidemment. Mais pour son âge, je trouve que. Il manie bien toujours le fouet.
Oui, mais on va voir ça. On va voir ça sur les écrans. On va voir ce que ça donne. Puis déjà, on va avoir les premières critiques au Festival de Cannes.
Ouais.
De quoi il en retourne.
C'est un petit peu le curseur. Hein.
Ouais, un petit peu. Mais si tu veux, parce que tu as tous les journalistes qui s'y pressent, donc j'imagine que ça va. On va pouvoir lire quelques papiers dessus. Ouais.
Donc normalement, la sortie est prévue fin juin, me semble-t-il.
Le 28 juin.
Le 28 juin.
Oui,
voilà.
Oui.
Et on aura sur le mois de juillet le retour de Tom Cruise.
Mission Impossible.
Voilà, Mission Impossible, première partie. Hein, c'est une
première partie.
Voilà, deux parties.
Ah, ils aiment bien maintenant les. Alors, c'est marrant parce que tu vois, le de plus en plus, tu as dit. Alors, non, hormis, on va dire, Le Seigneur des Anneaux ou La Guerre des Étoiles, mais tu as des films en deux opus. Alors, c'est bon pour le marché parce que si le film est bon, tu sais que tu vas retrouver tout le public que tu as eu au premier opus.
Et, c'est comme Les Trois Mousquetaires.
Exactement, je pensais à celui-ci.
Ouais.
Je pensais à Dune aussi.
Oui.
Dune qui va revenir aussi.
Ah bon
la suite. Oui, il y a eu le.
Alors moi j'ai pas vu le nouveau.
Ah, tu l'as pas vu?
Non.
Alors moi j'étais quand même fan du premier évidemment de David Lynch.
Oui.
Très spécial.
Était tourné à l'époque.
Très spécial.
Ouais.
Oui, c'est un film qui fait mal à la tête comme tous les films de David Lynch.
C'est un peu technique, un peu complexe.
Il faut être bien attentif et puis même des fois avec David Lynch quand tu es très attentif tu as plein de choses qui se passent et tu passes à côté des choses. Ouais. Tu passes vraiment à côté des choses et des fois aussi tu peux bloquer sur des personnages qui sont là mais qui sont là et pas là et ils font des apparitions, ils disparaissent et tout. C'est tout l'univers vraiment on va dire. De David Lynch là-dedans. Alors évidemment, ils l'ont refait. Donc c'est avec, je crois que c'est Timothée Chalamet qui joue un des rôles qui est très en vogue apparemment chez les jeunes filles en ce moment. Je connaissais pas du tout le personnage. Alors moi j'ai vu le premier opus, j'ai trouvé ça super.
Donc à suivre.
Et pourtant je te garantis que je suis pas fan de science-fiction, je suis pas fan de planètes bizarres avec des voilà. Mais j'ai trouvé ça vachement réussi au niveau de l'esthétique, des costumes. Moi j'ai bien aimé, voilà, sans être super fan.
Et bien on sera peut-être là pour la suite, Dune.
Par contre, le deuxième opus, je sais pas quand il va sortir, Dune, je sais pas trop quoi. Mais voilà, tu vois, c'est marrant que la schématique des séries. Eh ben, prend pied dans le cinéma, c'est un petit peu la revanche parce que les séries, on va dire, ont ralenti les entrées cinématographiques. Le cinéma réagit en disant mais nous aussi, on est capable de faire des petites séries. Et je trouve ça très bien, pourvu qu'elles marchent.
Eh bien, on verra ça de près ensemble. Merci Pascal pour ce nouveau numéro, donc délocalisé de Cannes à la Brèche, tout simplement. On se retrouve la semaine prochaine avec le kimono. Hein.
On va parler, bien sûr, des saisons en habit. Oui, bien sûr. Oui, c'est important.
Alors, le mot de la fin, Pascal.
Eh bien, prenez soin des vôtres, regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air et venez au ciné ou prenez l'air à l'extérieur, profitez de ce joli printemps qu'on a. Et moi, je vous dis à très très bientôt, passez une excellente semaine cinématographique.
Merci, Pascal.
À la semaine prochaine.
Salut.
Eh bien, super.